Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur Radio Galère dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. L'émission sera rediffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère à partir de vendredi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Oxfam France et son groupe local de Provence, avec Frédéric Séguré, président du conseil d'administration d'Oxfam France et coordinateur du groupe local Provence. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons aussi avec nous Sophia Itani, bénévole du groupe local Provence et du programme Jeunes d'Oxfam France. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin moi-même, Camille Navas, bénévole de l'émission Écoforum et bénévole du groupe local Provence et du programme Jeunes d'Oxfam France. Sont présents également à nos côtés deux bénévoles de l'émission Écoforum, Chloé Lenders et Marin Moffret. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors ensemble ce soir, nous allons aborder différentes thématiques. En première partie d'émission, nous présenterons Oxfam France, son groupe local Provence et le programme Jeunes. En deuxième partie d'émission, à l'occasion de cette journée des femmes, nous allons aborder leurs droits et les inégalités qu'elles subissent. Et enfin, nous terminerons avec un agenda des prochains événements du groupe local Provence.
Et pour compléter ce que tu viens de dire, Camille, en ce 8 mars 2023, nous annonçons que cette émission fait partie d'un programme qu'on vous présentera dans 2 semaines qui s'appelle La forêt des possibles. On n'en dit pas beaucoup plus ce soir, mais qui viendra s'intégrer dans un grand corpus d'émissions et de sources d'inspiration sur lesquelles tous ces sujets se connectent. Voilà, comme ça, nos auditeurs et nos auditrices peuvent avoir leur curiosité qui s'éveille. Je te rends la parole, Camille, pour la suite de l'émission.
Alors, nous reprenons avec Oxfam et nous allons commencer avec la question que vous vous posez certainement depuis le début de l'émission. Qu'est-ce qu'Oxfam France ? Et pour répondre à cette question, on va faire un retour en arrière pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1942, la Grèce est un pays occupé par les forces de l'Axe, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et la Bulgarie, et les forces alliées font un blocus maritime. Et à cause de toutes ces choses-là, le pays va sombrer dans la famine. Pendant le même moment, en Grande-Bretagne, une organisation milite pour que des vivres soient envoyés en Grèce. Et cette organisation, c'est Oxfam pour Oxford Committee for Relief Famine. Après la guerre, Oxfam va poursuivre ses activités en faisant parvenir une aide matérielle et financière à des organisations qui aident les personnes pauvres en Europe. Puis l'association va développer toutes ses actions dans les pays en développement. En 1995, un groupe d'organisations non gouvernementales indépendantes crée la Confédération internationale Oxfam pour unir leurs efforts et maximiser l'impact de leurs actions. Donc Oxfam, c'est une confédération internationale qui lutte contre les inégalités pour mettre fin à la pauvreté et aux injustices. On revient en France maintenant. Comment est née Oxfam France ? Alors en 1988, Agir pour un monde solidaire est un groupe de citoyens engagés dans le monde associatif et il va lancer un appel pour rassembler toutes les personnes qui souhaitent promouvoir des relations Nord-Sud plus éthiques, plus justes, pour agir durablement contre les inégalités mondiales et la pauvreté. Et en 2006, ce groupe Agir ici pour un monde solidaire va rejoindre la Confédération internationale Oxfam et va devenir Oxfam France, une association de loi 1901 qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté et de combattre les inégalités qui l'alimentent. Alors aujourd'hui, Oxfam, qu'est-ce que c'est ? C'est 21 organisations qui sont membres de la Confédération et chacune de ces organisations sont indépendantes. Elles ont un objectif, enfin plutôt des objectifs communs. Elles sont basées en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie. Elles réunissent 10 000 employés et elles interviennent dans plus de 90 pays. Il y a aussi un secrétariat d'Oxfam International. Et ce secrétariat, il dirige, facilite et soutient la collaboration entre les membres de la Confédération pour renforcer leur impact sur la pauvreté et l'injustice. Il met également en œuvre des activités de plaidoyer, des campagnes, des programmes de développement et il garantit une intervention rapide en cas d'urgence dans les pays qui en ont besoin. Et alors, le secrétariat d'Oxfam International possède plusieurs bureaux. Il y a un siège au Kenya et des bureaux dans différentes villes comme la Belgique, des bureaux en Suisse, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et à Addis-Abeba. et il regroupe 300 employés. Donc maintenant que je vous ai présenté l'histoire d'Oxfam et d'Oxfam France, je vais aborder les actions de ces deux associations. Donc au niveau international, Oxfam agit de trois manières. Tout d'abord, elle agit en cas d'urgence. Donc elle fournit une réponse rapide et adaptée en cas d'urgence humanitaire à toutes les personnes en détresse, donc par exemple de l'eau, des rations alimentaires, etc. Le deuxième mode d'action, c'est de mener des actions de pouvoir citoyen, donc contre, par exemple contre les lobbies industriels et financiers, ou encore faire pression sur les responsables politiques pour obtenir des lois justes et des changements durables en faveur du plus grand nombre. Et enfin, la troisième manière d'agir d'Oxfam, c'est l'appui au développement, donc en soutenant des projets dans la durée et pour que les personnes puissent faire respecter leurs droits fondamentaux. Donc ça, c'était pour Oxfam International. Et pour Oxfam France, il y a différentes actions. Alors tout d'abord, Oxfam France gère 7 campagnes. Inégalité et justice fiscale, climat et énergie, agriculture et sécurité alimentaire, financement du développement, migration, humanitaire et urgence, inégalité femmes-hommes. Ensuite, elle organise également des événements comme le Trail Walker, dont on va parler tout à l'heure. Elle publie également des rapports de recherche qui illustrent les inégalités de nos sociétés. Et elle donne aussi des recommandations pour les faire reculer. Il y a également de la mobilisation et de l'activisme en ligne, comme des pétitions, des interpellations de députés. Ensuite, il y a également 6 magasins solidaires de seconde main en France. Et pour finir, Oxfam France anime et développe des groupes locaux. Au niveau des finances, Oxfam France peut vivre grâce à 45% de dons de particuliers et 53% de subventions. Il y a également des ventes en magasin et le Trail Walker qui permettent à l'association d'avoir de l'argent. Et donc c'est une structure qui est financièrement indépendante, ce qui lui permet d'avoir une liberté d'action et de parole. Donc nous avons terminé avec l'histoire et la présentation d'Oxfam. Et avant de passer à la suite, nous allons faire une présentation des différents invités qui viennent représenter Oxfam ce soir. Frédéric, tu veux commencer ?
Oui, alors donc je suis Frédéric Séguré, donc je suis un des bénévoles du groupe local d'Oxfam. Donc je suis Oxfam depuis plusieurs années. Je suis rentré donc parce que donc j'avais la certitude qu'il fallait agir pour mettre fin à l'injustice de la pauvreté. Et finalement, Oxfam, c'est un des lieux qui permet de le faire. De manière assez logique parce que c'est une des rares organisations qui s'attache à supprimer les causes structurelles de la pauvreté et des inégalités et qui ne se contente pas d'apporter de l'aide. Et ça me semble important. Moi-même, j'avais été bénévole dans une autre organisation, une très grande organisation, où j'avais fait de l'humanitaire et j'avais pu constater qu'il fallait s'attaquer donc aux causes racines de la pauvreté, sinon agir en ne faisant que du développement et en ne faisant que de l'aide humanitaire, c'est un peu comme remplir un puits sans fond, ça ne s'arrête jamais. Et moi j'avais envie que ça s'arrête et c'est vrai que Oxfam répondait un peu à cette conviction de ma part et donc j'ai assez vite accroché, surtout dans l'idée que on sait maintenant que mettre fin à la pauvreté c'est tout à fait possible. On peut donner des exemples, par exemple entre 1990 et 2015, le taux d'extrême pauvreté dans le monde a reculé. On est passé de 36% à 10%. Et il reste beaucoup, beaucoup à faire. Mais on sait que c'est possible. Donc, il y a ce côté aussi optimiste et de se dire que on n'est pas bénévole pour rien, que quelque chose va se passer. Et ça, pour moi, c'est très motivant. Voilà, donc c'est pour toutes ces raisons que je suis devenu bénévole à Oxfam. Et donc, effectivement, je suis dans le groupe local Provence depuis 3 ou 4 années où on a monté ce groupe local. Mais peut-être on en reparlera tout à l'heure, de savoir ce que fait le groupe local dans la région.
Merci Frédéric. À toi Sophia.
Donc je m'appelle Sophia Itani, je suis lycéenne et j'ai rejoint Oxfam à travers le PJ, donc le programme jeune, pardon, en septembre 2022. Donc on en parlera un peu plus tard du programme jeune, mais donc j'ai voulu m'engager un peu comme Frédéric, c'est-à-dire essayer de faire bouger les choses au lieu d'aider. Et donc j'ai auparavant pu faire des maraudes ou aider des enfants. Mais donc là, j'ai vraiment voulu essayer de faire bouger les choses par le bas. Et donc j'ai candidaté et j'ai été sélectionnée. Et donc aujourd'hui, je fais partie du groupe local de Provence. Et donc aussi pendant un an du programme jeune.
D'accord, merci. On en parlera un peu plus tard du programme jeune, pour ceux qui se demandent ce que c'est. Alors pour moi, il y a un peu plus d'un an, je cherchais des associations où m'engager à côté de Marseille. Et un peu par hasard, je suis tombée sur le site d'Oxfam France. Et il y a deux événements, enfin deux projets qui ont particulièrement attiré mon attention sur le site. Donc tout d'abord le programme jeune que Sophia va nous présenter dans quelques instants. Et aussi le Trail Walker. Alors, le Trail Walker, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge sportif et solidaire qui consiste par équipe de 4 à collecter 1 500 € en faveur d'Oxfam France et à parcourir 100 km, c'est déjà bien, en moins de 30 heures. Et on peut y participer de trois façons différentes, donc soit en tant que marcheur, soit en tant que supporter, soit en tant que bénévole. Moi, bon, à ce moment-là, je ne me sentais pas prête à parcourir 100 km, donc j'ai décidé de commencer en tant que bénévole. Et j'ai participé au Trail Walker de Lyon, qui a eu lieu le week-end du 8 et 9 octobre 2022. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette aventure. C'était une aventure unique à laquelle je reparticiperai sans hésiter. Et ça m'a confortée dans mon choix de rejoindre Oxfam France en tant que bénévole. Et aussi, ça m'a donné envie de participer au programme jeune. Sophia, est-ce que tu veux nous parler maintenant du programme jeune ?
Oui. Donc c'est un programme qui est à destination des 16 à 26 ans et il vise à former donc ces jeunes-là. On est à peu près une trentaine, quarantaine à être recrutés entre guillemets. Donc on est formés aux causes que Oxfam défend et ce qui nous permet ensuite d'agir ensemble au travers de week-ends. Donc il y en a un en octobre et un autre en avril. Et donc ça nous permet de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous et cette même volonté de faire bouger les choses. Et donc on y reste un an et après on peut très bien continuer en étant bénévole au sein d'un groupe local. Et je pense que c'est bon.
Et alors qu'est-ce que tu as fait pour l'instant en étant bénévole au programme jeune ?
Donc il y avait donc un week-end de mobilisation et de rencontre avec les autres jeunes en octobre sur Paris. Et donc là, j'ai pu rencontrer tous les autres participants. Et c'était génial parce que j'ai rencontré... donc j'étais la plus jeune parce que j'avais 17 ans. Et j'ai rencontré plein d'étudiants, plein de personnes super intéressantes au parcours tous et toutes différents. Et ce que j'ai fait, donc on a sur la campagne Banque et Climat, sur laquelle peut-être on reviendra. On a donc été sur la place de la Bourse. Et on a donc essayé d'aller voir les gens, de les sensibiliser sur particulièrement la banque BNP Paribas. Et on les a donc accostés. On a aussi dansé. Camille, t'as dansé. et c'est surtout partagé avec les autres, en fait. Plus que...
Frédéric, est-ce que tu vas en profiter pour nous parler de l'affaire BNP Paribas ?
Oui, je peux en parler, je peux dire quelques mots, effectivement. Donc c'est une affaire, une des campagnes d'Oxfam. Donc Oxfam a de longue date des relations avec les banques pour faire en sorte qu'elles désinvestissent le secteur polluant des énergies fossiles dans le cadre des efforts que chacun doit faire pour limiter le réchauffement climatique parce que c'est un problème qui affecte énormément donc toutes les populations dans le monde entier et qui aggrave énormément les inégalités. Et donc parmi les les grands émetteurs qu'on ne soupçonne pas, les grands émetteurs de gaz à effet de serre, il y a les banques. Pourquoi ? Parce qu'elles investissent massivement dans des projets qui sont des projets qui eux-mêmes vont générer des émissions pendant des dizaines d'années. Donc il faut absolument arrêter ça. Il faut arrêter de financer des projets. Donc effectivement, donc nous discutons avec toutes les banques. Il se trouve que BNP Paribas est le premier financeur européen et le cinquième mondial de l'expansion des énergies fossiles. Donc il s'agit pour nous vraiment de les inciter à changer de comportement dans leur choix d'investissement. Et il est, par exemple, le premier financeur mondial des 8 géants du pétrole et du gaz, dont Total. C'est vraiment le financeur des bombes climatiques hein, qui n'existerait pas si BNP n'était pas là. Donc, on a beaucoup parlé avec BNP, qui nous a beaucoup ignoré également. Et ensuite, nous sommes basés sur une loi en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance. Et on a demandé à BNP de respecter les termes de la loi, hein, donc c'est-à-dire de vérifier que ces actions n'ont pas d'implication à la fois sociale et environnementale. Donc on l'a mise en demeure de le faire avec deux autres organisations qui sont Notre Affaire à tous et les Amis de la Terre France. Et donc la réponse de BNP ne nous satisfaisant pas, nous avons commencé à l'engagement d'une action en justice. Et nous avons besoin également de soutien du public, parce qu'on sait que quand on va en justice, si on a le public derrière nous, eh bien, c'est plus facile. Donc si vous voulez nous aider à poursuivre en justice BNP Paribas, nous, petite ONG face au premier financeur mondial des bombes climatiques, eh bien, vous pouvez donc aller sur le site affaires-bnp.fr et signer la pétition en ligne qui va beaucoup nous aider. Hein. Chaque signature permet de peser dans la balance de la justice.
J'aurais deux questions par rapport à ce que vous venez de dire, Frédéric. La première, c'est dans votre présentation tout à l'heure, vous disiez que ce qui était intéressant avec Oxfam, c'est d'aller chercher les causes des problèmes et donc de remonter aux racines. Et donc là, vous attaquez au secteur industriel carboné, pétrolier et de gaz. Et un des arguments qui pourrait vous être donné, c'est de dire que 80% de l'énergie mondiale est carbonée et que c'est ça qui fait vivre 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et donc, on peut aussi vous poser la question de vous dire qu'est-ce qu'on propose à la place. Est-ce que vous avez une forme de proposition de dire, pour remplacer ce pétrole dont on a besoin pour faire vivre notre société, on propose tels et tels scénarios ? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie du raisonnement ?
Alors nous, on n'est pas des spécialistes de la transition énergétique, hein, pas du tout. On s'appuie sur les scénarios standards hein, qui sont disponibles dans le débat public, notamment réalisés par les instituts qui le font. Ben, ça peut être des institutions publiques comme RTE ou des ONG, donc j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra peut-être. Mais donc effectivement, négawatt, exactement, les scénarios négawatt. Donc effectivement, donc il y a des scénarios dans le débat public qui permettent de démontrer que le changement, la transition énergétique, hein, elle est possible. Donc si elle est possible, il faut la faire. Et après, nous, on soutient beaucoup l'idée que donc on a un accord de Paris qui a été signé en France, qu'il faut respecter. Donc c'est à minima aux multinationales basées en France de se mettre en ordre de bataille pour être aligné avec cet accord. Et là, on n'y est pas du tout. Alors pas du tout, du tout, puisqu'on n'est pas du tout sur une trajectoire de 1,5 degré si on continue à investir dans des projets qui vont émettre pendant 30 ou 40 ans à partir d'aujourd'hui. Donc il faut absolument cesser dès maintenant ce type de financement.
Merci pour cette réponse claire sur ma première question. La deuxième, c'était, vous avez fait référence à une pétition que l'on pouvait signer pour avoir plus de poids auprès des tribunaux pour transformer les tendances auprès de la BNP Paribas. Est-ce que ça s'inscrit dans une logique de lobbying qui est proche de celle notre affaire à tous qui avait mené à la condamnation de l'État pour une action climatique avec une grande pétition qui avait été signée par 2 millions de personnes, il me semble, à la fin de l'année 2019.
Oui, c'est exactement ça. Donc c'est une référence à l'affaire du siècle, effectivement.
Ouais.
Donc l'affaire du siècle qui est une action également en justice, mais cette fois qui n'est pas dirigée contre une banque, mais contre l'État, où on a demandé, donc avec effectivement notre affaire à tous, la fondation Nicolas Hulot et Greenpeace, de bien vouloir, on a demandé à l'État de bien vouloir respecter les lois qu'il s'est lui-même fixées pour assurer la transition climatique, donc dans divers secteurs, dont le logement, le transport, etc. Donc cette mise en demeure a été suivie des faits, justement parce que, comme vous l'avez souligné, effectivement, il y a eu une pétition. C'est la pétition la plus signée de l'histoire des pétitions en France, puisqu'on a dépassé les 2 millions de signatures. Et ça a été extrêmement rapide, puisqu'en quelques semaines seulement, il y a eu plusieurs centaines de milliers de signatures et très rapidement, les 2 millions. Donc c'est vraiment important. On a obtenu des décisions très favorables en justice qui ont mis... Enfin, donc effectivement, l'État a été mis en demeure de respecter ce qu'on avait dit, c'est-à-dire les lois en vigueur. Et on l'aurait certainement pas obtenu, cette décision, sans effectivement l'appui de cette pétition. Donc ça, c'est vraiment très important de se rendre compte que chaque citoyen a un pouvoir qu'il peut ou non utiliser. Donc il y a différentes façons d'utiliser ce super pouvoir citoyen. Hein. C'est de l'utiliser dans le cadre démocratique, de voter, etc. Mais c'est aussi des fois de signaler qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Et la pétition, c'est un moyen de le faire. Donc c'est important.
C'est assez fort. En tant que juriste de formation, normalement, là, on pourrait presque entendre que c'est la vindicte populaire qui a fait comme une espèce de jury géant qui a permis... un basculement de jurisprudence sur ces sujets-là. Mais c'est sûr que ça vient interpeller le magistrat. Alors là, c'est le Conseil d'État, donc c'est plus les différentes personnes qui travaillent au Conseil d'État. Mais sur la définition qu'on peut se donner de l'intérêt général, qui est fluctuant en fonction de la société dans laquelle on vit et de la compréhension aussi de tous les bouleversements environnementaux qui sont de plus en plus présents. Mais c'est fou de se dire que c'est une pétition qui peut avoir influencé cette décision juridique.
Oui, parce que ça appuie beaucoup l'intérêt à agir, hein, c'est-à-dire ça démontre que c'est pas une affaire qui concerne quelques spécialistes du climat, mais que ça concerne vraiment tout le monde, et ça je pense que les juges n'y sont pas finalement insensibles, puisque ce sont des citoyens comme les autres, et que le droit se rend dans un cadre, la justice se rend dans un cadre de droit, mais aussi dans un cadre social, affirmé. Et donc le fait d'affirmer, d'affirmer un soutien citoyen, c'est quand même pas anodin dans une décision de justice.
Alors avant notre pause musicale, on va aussi parler des groupes locaux. Donc, qu'est-ce que sont les groupes locaux d'Oxfam France et aussi une présentation du groupe local de Provence?
Les groupes locaux, donc, c'est justement une manifestation du pouvoir citoyen, c'est-à-dire que Oxfam France a comme caractéristique de produire des données, de produire des rapports, de produire beaucoup d'informations qui sont réutilisées par les citoyens. C'est une équipe salariée qui le fait au siège, mais il n'y a pas que des salariés à Oxfam France, il y a aussi des bénévoles. Et ces bénévoles agissent dans différentes structures, donc notamment les groupes locaux. Donc on a déjà parlé du fait qu'il y avait des magasins, donc on a des bénévoles dans nos magasins. On a parlé aussi du fait qu'on avait des trailwalkers, donc on a des bénévoles sur les trailwalkers. Et toute l'année, on a des bénévoles dans les groupes locaux. Donc ce sont des groupes, comme leur nom l'indique, qui sont sur le territoire, actuellement dans 13 villes de France. On aimerait bien en avoir aussi à Marseille, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, mais on y travaille. Et donc dans ces groupes, on va retrouver des militants et des militantes engagées qui vraiment s'unissent pour apprendre des choses ensemble et pour agir. Donc pour agir, pour agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire porter les messages d'Oxfam France sur le territoire, aller à la rencontre du public. Ça veut dire faire du plaidoyer. Alors le plaidoyer, c'est quoi ? C'est d'aller à la rencontre des élus ou des décideurs économiques. Donc ça peut être les élus du territoire ou ça peut être les députés pour leur expliquer donc quels sont les messages d'Oxfam et qu'est-ce qu'on attend comme progrès en matière de politique publique pour réduire les inégalités, puisque c'est quand même avant tout de ça qu'il s'agit. Donc sur la base des rapports et des campagnes d'Oxfam. Donc c'est le travail, c'est de décrocher des rendez-vous, rencontrer les responsables, rencontrer les personnes et obtenir des engagements vraiment dans l'intérêt de toutes et tous. On fait aussi beaucoup de mobilisation du public, c'est-à-dire on organise des événements pour le public comme des conférences, comme des projections débats, on essaye de sensibiliser à nos sujets qui sont... une chose importante, puisque c'est important que le public prenne conscience des problèmes et soit poussé comme ça à l'action. On a aussi un atelier participatif qui s'appelle la fresque des inégalités, qui permet en 3 heures, sur le modèle de la fresque du climat qui est bien connue, pour parler des inégalités, qui permet en 3 heures donc, de bien comprendre l'ensemble de la structure économique et sociale qui crée les inégalités qui sont la cause de la pauvreté. Donc c'est très intéressant. On est en train de déployer ça un peu partout en France. Nous, on a un groupe local en Provence qui est principalement actuellement avec des activités sur Aix-en-Provence et Avignon. Et comme je le disais en préambule, donc est aussi attaché à développer des activités sur Marseille. Voilà, donc peut-être qu'on en reparlera, mais on a prochainement des activités prévues sur Marseille. Donc
on vous dira ça en fin d'émission.
On vous le dira, ouais.
On va pouvoir passer à la pause musicale. Sophia, tu veux dire quelle musique on va écouter et pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix ?
Donc on va écouter Money, Money, Money de ABBA. Et donc durant la danse qui a été faite... lors de la campagne Banque et Climat par rapport à BNP Paribas, donc on a dansé sur cette musique pour dénoncer tout ce système-là et on va pouvoir l'écouter du coup.
Merci, à tout à l'heure.
À tout de suite.
Money, money.
Nous sommes en direct sur Radio Galère dans l'émission Écoforum qui donne la parole aux acteurs et actrices de la métropole Aix-Marseille-Provence engagés dans l'écologie et la solidarité. Et ce soir, nous sommes avec l'association Oxfam France. Donc en première partie, nous avons présenté Oxfam France, les groupes locaux, le programme Jeunes. Nous avons aussi parlé de l'affaire BNP Paribas. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet actuel, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Et nous allons parler avec Frédéric, donc des droits des femmes et des inégalités qu'elles subissent.
Frédéric et Sophia.
Oui.
Enfin, tout le monde, c'est un...
Oui, effectivement. Donc, oui, alors, effectivement, Oxfam donc, mène de nombreux combats, hein, donc on peut remettre un petit peu l'ensemble des sujets. Donc il y a la responsabilité des entreprises dans les règlements climatiques, il y a la consommation responsable, il y a les inégalités des émissions de CO2, et il y a la faim, il y a le droit à l'alimentation, il y a l'aide publique au développement, il y a le droit à la santé, il y a l'inégalité de répartition de la production de richesses, il y a l'agroécologie versus le complexe agro-industriel. Et l'inégale répartition des revenus dans la production alimentaire au détriment des producteurs et des paysans. Il y a le droit à la santé, il y a les pays du Sud, il y a la dette publique, il y a le droit à... Voilà, il y a beaucoup de sujets que traite Oxfam. Et Oxfam se dit être une association féministe, voilà, même si elle n'est pas au premier plan sur les associations féministes, mais elle se dit l'être et notamment elle essaye d'avoir un prisme féministe à travers l'ensemble de ses campagnes. Et aujourd'hui, bah, c'est le jour ou jamais pour en parler, puisque c'est voilà, aujourd'hui 8 mars, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et à cette occasion, on a sorti un rapport hier, que vous allez pouvoir trouver sur le site assez facilement, le site oxfamfrance.org, qui s'appelle le territoire féministe et qui essaye d'expliquer comment l'action locale peut être un levier essentiel de la réduction des inégalités entre femmes et hommes. Alors on peut partir de constats qui sont pas très glorieux, hein, c'est que dans le monde, les droits des femmes progressent trop lentement. Elles devraient attendre encore plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire au rythme où l'égalité avance. Ça, c'est d'après un rapport du Forum économique mondial qui est sorti l'an dernier. Parmi les personnes les plus pauvres, donc en situation d'extrême pauvreté, c'est-à-dire vivant avec moins de $1,9 par jour, il y a 50% de plus de femmes que d'hommes dans cette situation. Le salaire des femmes est en moyenne inférieur à celui des hommes dans le monde. Quand un homme gagne 100 euros, une femme dans le monde gagne 77 euros. Donc l'écart salarial est plus important encore pour les femmes qui ont des enfants, pour les migrantes, pour les femmes de couleur. Et ça s'explique par la maternité, hein, qui pousse les femmes vers des emplois informels. Ou qui poussent vers des temps partiels et par le fait que, par ailleurs, le travail des femmes est moins estimé et moins rémunéré que celui des hommes. Et bien entendu, avec tout ça, les femmes consacrent environ 2,5 fois plus de temps aux travaux domestiques et aux soins non rémunérés dans le cadre de leur foyer. En France, la situation n'est pas brillante non plus, hein, puisque... 20% des femmes sont inactives aujourd'hui en raison de leurs obligations entre guillemets familiales. C'est 4 fois plus que les hommes, hein, pour les mêmes raisons, hein, pour les mêmes obligations. 2/3 des personnes ayant recours à l'aide alimentaire en France sont des femmes. Et à travail égal, les femmes gagnent toujours 15,8% de moins que les hommes. Donc c'est le constat en ce moment. Le rapport qu'on a sorti, c'est vraiment se dire est-ce qu'il n'y a pas des solutions à mettre en place en termes de politique publique sur les territoires. Le constat, c'est que pendant très longtemps, ces politiques publiques étaient menées par des hommes pour des hommes. Alors pourquoi ? Parce que il y a toujours eu très peu d'élus femmes. Il faut donc que les femmes soient davantage associés aux décisions et puis aussi pour les hommes, parce que les enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes ont toujours été négligés. C'est pas que c'est une volonté de pénaliser les femmes, mais c'est qu'on n'y pense pas. En fait, les hommes qui sont au pouvoir n'y pensent pas forcément. Et donc tous les exécutifs locaux, ils se préoccupent pas de l'impact potentiellement négatif de leurs décisions sur les femmes. Et donc il en résulte que des politiques publiques peuvent aggraver les inégalités.
Voilà. Alors moi j'aimerais bien poser une question qui permet de continuer à poser le débat. Là tu présentais un constat. Et j'aimerais aussi vous poser une définition. Tout à l'heure, tu disais que c'était une association féministe. Quelle est la définition que vous donneriez de ce que c'est que féminisme ? C'est un mot qu'on emploie très très souvent dans le débat public, et ça peut être bien de débuter la discussion sur simplement la définition du terme, et au-delà de la définition, peut-être la représentation parfois plus subjective qu'on peut s'en faire chacun chacune d'entre nous. Si on vous fait un petit tour de table de cette proposition.
Alors pour moi, la question féministe, on est en train de travailler justement Oxfam dessus, parce que c'est pas simple, hein, effectivement, la définition, elle est pas si simple. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, dans mon esprit, le fait d'être une ONG féministe, ça veut dire qu'on va, de manière systématique, regarder... nos actions au prisme de l'égalité femmes-hommes, quelle qu'elle soit, et on va essayer d'en tirer des conclusions et essayer d'orienter nos actions pour aller vers encore plus d'égalité.
Alors, moi je dirais, j'ai pas de définition officielle, mais je le ressens comme ça, je dirais que le féminisme, être féministe, c'est se battre et avoir l'envie que les femmes arrivent à égalité avec les hommes dans notre société, voilà, qu'il n'y ait plus de différence entre les deux à tous les niveaux.
Et pour moi, c'est vrai qu'on utilise ce mot assez facilement. Ce serait en fait d'avancer vers l'égalité, évidemment, mais essayer de déconstruire ce biais qu'on a de penser que la femme serait moins bonne dans certaines tâches et moins qualifiée, juste parce que c'est une femme. Je pense que c'est faux et c'est avancer vers cette déconstruction de cette idée-là.
En fait, arrêter de dire que telle activité, c'est pour les garçons, telle autre, c'est pour les filles. Enfin, arrêter de faire une séparation et de poser un sexe sur les choses, quoi.
Pour participer aussi à ce tour de table, tout à l'heure vous parliez de la question des causes et peut-être que la première chose qui me vient en tête, c'est la question des rapports de domination. Et les rapports de domination, ils se déclinent sous différents types de groupes de personnes qui viennent en dominer d'autres. Et donc je dirais qu'il y a les questions de domination de groupes d'hommes sur des groupes de femmes, de groupes de personnes de couleur blanche sur des groupes de personnes qui ne sont pas de couleur blanche, des personnes qui sont socialement et économiquement en situation de domination par rapport à celles qui ne le sont pas, et des humains sur les non-humains. Et donc ça se décline. Et donc j'intègre la question féministe dans ces autres grandes questions-là. C'est notamment une réflexion dite écoféministe. Et ensuite, une fois qu'on a ces grands schémas de pensée, pour ce qui me concerne, et après je me positionne parce que je suis un homme, je m'identifie homme blanc, hétéro, j'ai une origine qui est plutôt où j'ai pas eu de problème. La question ensuite, c'est qu'est-ce qu'on va créer ensemble, malgré ce qu'on peut représenter avec les humains que nous sommes, et comment est-ce qu'on peut quand même créer des relations qui soient justes. Et donc prendre conscience des inégalités de structure et ensuite intégrer la nuance avec tous les humains et tous les parcours qui sont singuliers au-delà de la structure. Voilà, c'est la vision que je me fais de ces questions-là.
Merci Marin. Et Frédéric, au niveau du rapport Oxfam qui est sorti donc, sur les femmes, quelles sont les recommandations? Est-ce que Oxfam propose des solutions pour atteindre l'égalité?
Oui. Donc là, donc on peut poursuivre donc le déroulé de ce rapport donc sur les territoires. Donc on se rend compte qu'effectivement sur les territoires, il y a beaucoup de politiques publiques qui ne sont pas égalitaires, alors qu'on n'y avait pas pensé. Par exemple, si on regarde la politique de budget alloué au sport dans les villes de Haute-Garonne, ça a été analysé par le Haut Conseil à l'égalité en 2014, et ils ont trouvé que les hommes représentaient 60% des licenciés et bénéficiaient de 73% des subventions. Alors c'est un constat. Et puis on peut faire tout un chacun le constat qu'autour de nous, les infrastructures sportives sont quand même surtout destinées aux hommes. Donc les grands stades de foot ou de rugby qui sont utilisés exclusivement pour des équipes masculines, parce que c'est des grands stades et que les équipes qui attirent beaucoup de public, c'est plutôt des équipes masculines. Les city stades qui sont plutôt des destinés aux garçons, les skateparks aussi, les terrains de pétanque sur une autre tranche d'âge, c'est plutôt aussi destiné aux retraités qu'aux retraités. Donc on peut faire le constat autour de soi qu'il y a finalement une politique d'investissement et d'infrastructure qui est genrée finalement. Inversement, il y a des comportements qui sont aussi genrés, par exemple dans la mobilité. Alors les femmes utilisent davantage que les hommes les transports en commun. Voilà. C'est deux tiers des usagers. Donc deux tiers des usagers sont des usagères. Et en plus, en moyenne, ce sont plutôt des usagers qui gagnent moins que les hommes. Donc on voit que dès qu'on va avoir une politique d'augmentation du prix de l'abonnement, ça va doublement impacter les femmes. D'une part parce que elles sont plus nombreuses à être concernées, puisqu'elles sont plus nombreuses à prendre le transport. Et d'autre part, le prix de l'abonnement va peser plus lourd dans leur budget. Alors que c'est très punitif, parce qu'en fait, le fait de prendre les transports en commun, c'est justement vertueux, et c'est ce qu'on attend du citoyen, c'est d'éviter l'utilisation de la voiture individuelle. On peut prendre un exemple très d'actualité, c'est la réforme des retraites. On sait que les pensions de droit direct sont inférieures de 40% chez les femmes que chez les hommes, et que 52% des femmes retraitées perçoivent une pension mensuelle inférieure à 1 000 euros contre 20% des hommes. Et donc ça s'explique par tout un tas de raisons. Donc des salaires inférieurs à ceux des hommes, une forte part de métiers à temps partiel et des carrières hachées par le travail de soins non rémunérés, notamment auprès des enfants. Donc beaucoup de femmes sont défavorisées sur les retraites. Et là, on nous demande d'accepter, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Le public ne l'accepte pas, parce que tout le monde a bien compris qu'en allongeant la durée légale de cotisation, une carrière incomplète devient plus pénalisante. Et qui c'est qui a plus souvent des carrières incomplètes? Ce sont les femmes. Donc, par exemple, pour la génération née en 1972, l'âge moyen de départ à la retraite va augmenter de 5 mois pour les hommes, mais de 9 mois pour les femmes. Et donc, on nous annonce des critères compensatoires, comme la prise en compte de critères de pénibilité, mais justement, les critères de pénibilité, ils sont plus souvent appliqués aux métiers masculins qu'aux métiers féminins. Donc voilà, il y a beaucoup de faits qui montrent que les femmes sont systématiquement pénalisées par les politiques publiques. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de décortiquer ces politiques par rapport à leur impact sur la réduction des inégalités femmes-hommes. En regardant donc pour chaque catégorie de politique publique, si elle est neutre, c'est-à-dire si elle n'est pas susceptible d'avoir un impact sur les inégalités. Ça peut être par exemple très bêtement les dépenses consacrées aux espaces verts. Quand on taille un arbre, ça n'a pas forcément d'impact ni sur les hommes, ni sur les femmes. Enfin, ça n'a pas plus d'impact sur les femmes que sur les hommes. Donc ça, on peut dire que c'est neutre. Il y a des politiques qui favorisent volontairement l'égalité, par exemple des subventions aux associations de défense des femmes victimes de violences. Donc ce type de programme peut être encouragé de manière volontaire par les collectivités. Et puis il y a des impacts qui sont cachés, et donc où il faut regarder les choses de près. Donc c'est toutes les subventions sur les activités économiques, sportives, culturelles, la mobilité, l'enfance, l'éducation, la jeunesse, enfin, voilà, tout le portefeuille de dépenses que réalise une collectivité. Et il faut que le gestionnaire réfléchisse vraiment à la manière d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts qu'il va pouvoir identifier. Et d'expérimenter, il faut qu'il expérimente aussi des solutions, voilà, et qu'il mesure les effets de ces solutions. Voilà, donc ça, c'est une première chose qu'on préconise, c'est vraiment de décortiquer le budget des collectivités par rapport à cette approche. C'est de prendre soin des femmes qui sont victimes de violences en subventionnant l'ouverture de centres d'accueil, parce qu'ils sont très, très insuffisants. Et c'est repenser, par exemple, les équipements urbains, comme on a dit tout à l'heure, pour qu'ils ne soient pas forcément toujours accaparés par les hommes et les garçons. Et donc, on peut donner des exemples de résultats, des deux choses qui ont fonctionné. Par exemple, à Paris, donc 8000 places de crèche créées en près de 10 ans. Donc ça permet de réduire les inégalités dans l'accès à la garde d'enfants. Et après, donc ça a aussi un effet sur les familles les plus précaires, qui sont les familles monoparentales et vivant sous le seuil de pauvreté, qui utilisent davantage les crèches que les autres. Et ça permet à ces familles que les femmes puissent accéder plus facilement à un emploi et donc les sortir des inégalités. Après, il faut reconnaître que les crèches, c'est des structures coûteuses et donc on a besoin aussi de l'aide de l'État. Donc les collectivités ne sont pas suffisantes. Il faut des subventions de l'État. Voilà, donc c'est un type d'action qui peut être menée par les collectivités. Sur la budgétisation, donc nous on appelle ça la budgétisation sensible au genre, c'est-à-dire de vérifier que les financements publics bénéficient autant aux femmes qu'aux hommes. Il y a deux villes qui se sont lancées, il y a Lyon et il y a Nantes. Donc par exemple à Lyon, en 2020, la subvention du tournoi de tennis masculin était trois fois supérieure à celle du tournoi de tennis féminin, parce que c'est le même sport. Donc il y avait 140 000 euros pour les tennismen et 45 000 euros pour les tennis women. Et donc, la ville de Lyon a dit maintenant on va arrêter ça et on va mettre le même traitement. Et donc maintenant chacun des deux tournois de tennis a la même enveloppe de financement.
Qui est de combien ?
Qui est en l'occurrence de 100 000 euros par tournoi.
Ok, ils ont coupé la pomme en deux.
Voilà. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les éga-conditionnalités. Donc, ça fait un peu écho aux éco-conditionnalités. Donc, les éga-conditionnalités, mais c'est pour le volet égalité femmes-hommes. Donc, c'est de conditionner l'attribution de financement ou de subventions publiques ou des autorisations administratives au respect des principes et des pratiques égalitaires entre femmes et hommes. Et il y a un levier très important qu'ont les collectivités, c'est les marchés publics. Pour l'instant, il y a encore peu d'exemples, mais il y a des villes qui travaillent sur des schémas de promotion, des achats socialement, écologiquement responsables pour intégrer dans le cahier des charges de l'achat public la question de l'égalité femmes-hommes. Donc ça, pour l'instant, ce n'est pas encore très développé, mais c'est un progrès à venir. En matière culturelle aussi, on peut imaginer qu'il y ait des mesures. Ça existe déjà. Par exemple, le Centre national du cinéma et le Centre national de musique ne verse de subventions et d'aides qu'uniquement que si la personne qui souhaite recevoir ces aides s'engage à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et contre le harcèlement dans son milieu. Voilà, donc ça c'est aussi des solutions. Et également, on peut parler du pouvoir local qui se féminise. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a de plus en plus d'élus femmes. Donc ça, c'est grâce aux lois sur la parité. Par exemple, on est passé de 22 à 42% de conseillères municipales on est passé à 50% de conseillères départementales. Les conseillères régionales, on est passé de 3 à 49%. En quelques années. Voilà. Mais après.
Est-ce qu'on voit maintenant, avec un peu de recul, les effets que ça peut entraîner ? Parce que typiquement, un des arguments qui peut être donné, c'est, et je le comprends si j'étais à cette place-là, c'est insupportable pour une personne qui est une femme de se dire « je suis là parce que je suis une femme et juste pour répondre au quota ». Et pourtant, si ça peut être désagréable sur le début, le fait qu'ensuite ça se mette en place fait que la légitimité s'installe et que la question se pose plus après. Est-ce que vous avez des analyses un peu sur la durée de voir le changement du regard que ça peut entraîner, le changement de la pratique de l'exercice du pouvoir, par exemple, aussi. Tout à l'heure, vous parliez du fait que, de facto, le fait qu'on passe de, je ne sais pas, 3%, comme vous veniez de le dire, à 50% de femmes élues, fait qu'un certain nombre de questions vont être visibilisées dans les dépenses publiques pour des dépenses d'infrastructures, par exemple. Est-ce que vous voyez d'autres choses un peu sur la durée qui se sont installées grâce à ça?
Oui, on sait que il y a des études qui montrent que quand les parlements sont fortement féminisés, le pays est plus de probabilité de soutenir des lois favorables à la transition, etc. Enfin, ça c'est démontré que plus les instances de décision sont féminisées, plus elles ont de chances d'être considérées comme progressistes, en fait.
Ok.
Ouais. Malgré tout, on voit que il y a quand même.
Pas en Italie, mais.
Oui. Après, oui, il ne faut pas confondre les instances délibératives de l'exécutif, de la personne qui est à l'exécutif, puisque dans ce domaine, on a encore du progrès à faire, puisque au jour d'aujourd'hui, on a encore moins de 20% des maires qui sont des femmes. On n'a que 10%, 11,4% sont des présidentes d'intercommunalités. Et puis, on a à peu près le même ordre de grandeur, 20%. Qui sont présidentes de conseil départemental, sont le même ordre de grandeur. Hein. Pour les conseillers régionaux, on a 4 présidentes de conseil régional sur 18 conseillers régionaux. Donc au niveau des têtes d'exécutif, on a encore assez peu, encore trop peu féminisé. Et puis on n'a toujours pas de présidente de la République en France. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Donc, on travaille aussi beaucoup à Oxfam sur l'aide publique au développement. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'aide publique au développement. Donc, c'est toute la contribution que la nation consacre à lutter contre les inégalités mondiales à travers une politique de développement, donc à travers des subventions ou des prêts. Vers les pays du Sud. La France est un des principaux bailleurs de l'aide internationale. Elle alloue 0,51% de sa richesse nationale à l'aide publique au développement. Le budget de cette aide a augmenté depuis 2017. Hein. Il est passé de 10 à 13 milliards d'euros. Donc c'est une trajectoire ascendante que nous, on aime bien saluer parce que déjà, on y a un peu contribué puisqu'on fait beaucoup de plaidoyer pour augmenter cette aide. Et c'était un engagement de campagne du président Emmanuel Macron. Malgré tout, la France figure parmi les mauvais élèves dans sa manière d'intégrer le genre dans l'aide au développement. Et donc nous, Oxfam, on demande que dans les fonds qui sont alloués au Sud, dans le cadre de l'aide au développement, on intègre des critères d'égalité femmes-hommes et ça, pour l'instant, il y a seulement un tiers des projets qui sont passés à ce crible. Et c'est très loin derrière d'autres pays comme le Canada, par exemple, qui le fait de manière beaucoup plus systématique. Voilà, donc ce sont vraiment des engagements qui nous tiennent à cœur et vraiment nos préconisations. C'est d'aller vers ce type de raisonnement, c'est-à-dire à toutes les échelles, que ce soit au niveau national ou au niveau local.
Voilà. Merci beaucoup Frédéric. Alors nous approchons de la fin de l'émission et nous allons la terminer avec l'agenda, donc les prochains événements organisés par le groupe local Provence d'Oxfam. Alors Sophia, déjà est-ce que tu veux nous faire un petit appel pour le programme Jeunes 4?
Alors oui, pour la quatrième session du programme Jeunes, on peut s'inscrire donc à partir de la rentrée scolaire 2023, donc septembre, octobre même. Et donc c'est, je le rappelle, la destination des 16 et 26 ans. Voilà.
Donc s'il y a des jeunes parmi nous, parmi les auditeurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à candidater à la rentrée. Mmh. Alors au niveau du groupe local Provence, dans les prochains jours, on va avoir deux événements. Alors le premier, ça va être un apéro Oxfam, demain à partir de 19h à la base Marseille, donc au niveau de l'adresse c'est 3 rue Pierre Roche. Et donc, vous pouvez venir si vous souhaitez vous engager pour un monde plus juste, plus solidaire et rencontrer d'autres personnes qui luttent contre les injustices. Donc, nous serons quelques bénévoles du groupe local Provence à vous accueillir. Et voilà, n'hésitez pas à venir nous rencontrer si vous voulez vous engager au sein du groupe local. Ensuite, le jeudi 16 mars de 18h30 à 21h30, toujours à la base Marseille, on organise une fresque des inégalités. Donc n'hésitez pas à venir également si vous souhaitez comprendre les mécanismes qui créent et maintiennent les inégalités dans le monde. Et vous pouvez retrouver ces deux informations, ces deux événements, sur la page Facebook Oxfam Groupe Local Provence. Et enfin, au niveau des trailwalkers, il y a deux trailwalkers qui arrivent dans les prochains mois. Donc si vous voulez participer, alors pour les plus courageux en tant que marcheurs, sinon vous pouvez aussi être supporter et bénévole. Donc les deux prochains trailwalkers, c'est en Gironde. Alors pour la Gironde, c'est le week-end du 13 et 14 mai. Et ensuite, pendant l'été, il y en aura un à Dieppe, le week-end du 1er et 2 juillet. Et donc là, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site oxfamtrailwalker.fr. Et c'est sur ce site-là aussi que vous pourrez vous inscrire. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a plu et que vous serez nombreux à venir nous rencontrer demain à l'apéro Oxfam à la base. Bonne soirée à tous et merci beaucoup Frédéric et Sophia d'être venus nous parler d'Oxfam France sur Radio Galère dans l'émission Écoforum.
Merci.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.